Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cette émission vous est présentée avec la très généreuse participation de Visot Tan, Swap, Dimitri Sauvaget, Loïc, Notvalou, Pépélu, Nicole, Marasme, Keith et Arthur Kenzo. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est l'émission qui vous résume et qui vous simplifie toute l'actualité tech de manière à ce que vous n'ayez pas besoin d'une autre source. Vous avez en une heure et demie, toutes les informations importantes de l'actu tech de ces deux dernières semaines. Je m'appelle Patrick Béja et je suis avec deux co-animateurs fantastiques que je vais vous présenter dans un instant. Je vais avant ça vous dire que nous allons traiter des sujets plutôt intéressants aujourd'hui. On va commencer avec Facebook qui voudrait protéger votre vie privée. Oui, c'est un petit peu le monde à l'envers, mais vous verrez que c'est effectivement le cas. La neutralité du net qui est en danger aux États-Unis. Plusieurs informations intéressantes sur Microsoft et Nokia, qui ne font maintenant plus qu'un, d'une certaine manière. Et plein d'autres news et rumeurs. Et pour m'accompagner dans ce voyage dans le monde merveilleux de la tech, j'ai Jeff qui nous rejoint comme d'habitude de la Silicon Valley. Comment vas-tu, Jeff ?
Ça va très bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous rejoins en fait depuis San Francisco. Nous avons ouvert notre grand bureau à San Francisco et donc la vue a changé. Je ne regarde plus Page Mill Road, je regarde Second Avenue à San Francisco. Et non. Il fait beau, mais il fait pas chaud parce que San Francisco, il fait toujours froid.
Oui, c'est pas génial San Francisco à ce niveau-là. Hein. J'y suis allé, genre, c'était la fin du printemps, c'est censé être super beau, il y avait tellement de vent que...
Écoute, le pire c'est l'été. Le San Francisco au mois d'août, littéralement, si t'as pas ta petite laine, tu te pèles les... Et donc là, pour le moment, ça va un peu, mais c'est vrai qu'il fait un peu frais. Alors que dans la vallée, on a dépassé les 90 degrés, donc
90 en Fahrenheit.
En Fahrenheit. Oui, donc au-dessus des 32 depuis un ou deux week-ends, donc ça commence à faire très beau.
D'accord. Donc tu fais le commute entre chez toi et tu es en voiture.
Ouais, on a encore un petit bureau à Palo Alto, mais c'est vrai que maintenant je suis trois fois par semaine à faire le commute entre Palo Alto et San Francisco, et c'est 50 bornes, et ça prend du temps.
Bon, pour ceux qui savent pas, Jeff est venture capitaliste depuis un certain temps dans la Silicon Valley et donc à San Francisco, et donc son éclairage nous est toujours précieux.
En fait, Softech, pas pour faire la pub, mais Softech vient de fêter ses 10 ans la semaine dernière, vendredi.
Ouh, joyeux anniversaire à Softech. Bravo. Et Jérôme, toi, il fait quel temps par chez toi?
Eh bien moi, je suis de mes grands bureaux, chambres / débarras du 18e arrondissement à côté de la Marque Olincourt, le nouveau pôle tech du 18e en fait, ouais, arrondissement de Paris. Écoute, le temps était pas trop mal hein, aujourd'hui. Moi, j'ai fait la navette entre Clichy et Aulnay aujourd'hui, voilà.
Bon, bah très bien. Maintenant qu'on a les informations sur la petite vie de tout le monde, je vais quand même préciser que Jérôme est le producteur de la chaîne Nowtech TV, puisqu'il s'est relancé à fond les manettes dans cette entreprise hautement appréciable. Et donc voilà, on a une vraie légitimité tech de Jérôme maintenant. Oui. Avant, c'était le cas aussi, bien sûr. Mais...
Oui, oui, elle veut dire quoi, ta phrase? Déjà, j'étais choqué par ton intro où tu as dit, en gros, quand vous écoutez le rendez-vous tech, vous n'avez pas besoin d'autres sources d'informations. En gros, tu tues tous les autres blogs.
Non, mais je voulais dire, à part Nowtech TV et le rendez-vous tech.
Ne lisez plus Corben, ce n'est pas la peine. Vous regardez.
Mais si, Corben, mais si. Tu sais bien qu'on t'aime. Allez.
Bon, lançons-nous dans les informations, justement, pour essayer de servir à quelque chose d'autre que le point météo entre Paris et la Californie. Parlons plutôt de Facebook et de ces annonces assez surprenantes que nous a fait Mark Zuckerberg lors de la conférence pour les développeurs F8, c'est le nom de la conférence pour les développeurs. Je sais même pas pourquoi ça s'appelle F8, mais c'est comme ça, sans doute parce que ça sonne bien.
Je plais sur ton clavier. Non, c'est pas pour ça.
C'est possible, oui. Donc il a annoncé tout un tas de choses qui étaient plutôt surprenantes. Allez, on va commencer par plutôt l'intention générale de l'orientation de Facebook dans les années à venir. Ce qu'ils veulent faire de Facebook, c'est bien sûr en plus de ce qui existe déjà, hein, ils vont pas complètement se départir de Facebook lui-même, mais ils veulent transformer ou en tout cas ajouter à la gamme de services qu'ils proposent un moyen de transformer Facebook en une plateforme cross-plateforme pour la mobilité. En fait, toute l'introduction de cette conférence était consacrée aux applications mobiles, avec comme idée qui sous-tend toute leur philosophie pour les quelques années à venir, de devenir une plateforme de développement d'app pour les mobiles, quel que soit le système sur lequel les applications sont développées. C'est-à-dire que en utilisant les outils que met à disposition Facebook, vous pourrez facilement développer des applications qui sont utilisables sur iOS, sur Android et sur Windows Phone et peut-être sur d'autres plateformes à l'avenir. Alors comment ils font ça ? Ils ont créé tout un tas de... Bon, d'abord, il y a un système de développement qui s'appelle Parse, qu'ils ont racheté, qui a été agrémenté de différentes fonctions qui seront très utiles aux développeurs. Ils ont aussi un système qui va permettre de passer d'une application à l'autre très facilement, de lier des applications sans avoir à repasser par le navigateur comme c'était le cas aujourd'hui. Ils ont des systèmes de monétisation, ils ont des systèmes de partage, tout un tas d'outils que peuvent utiliser les développeurs d'applications qui sont reliés à Facebook. Le truc le plus surprenant finalement dans tout ça, il y a tout un tas de questions très techniques qu'on va pas forcément traiter ici parce que c'est plutôt pour les développeurs vraiment. Mais la chose qui va intéresser les utilisateurs, c'est que ils ont créé et ils ont modifié leur système de login avec Facebook pour rendre le contrôle de ce qu'on partage avec les applications dans lesquelles on se connecte avec Facebook, pour rendre donc ce partage d'informations complètement contrôlable par les utilisateurs. C'est-à-dire que quand vous lancez une application et que cette application vous propose de vous connecter avec votre compte Facebook, comme c'est le cas avec beaucoup d'applications aujourd'hui, eh bien, à l'avenir, il sera possible de décider très précisément ce qu'on va partager avec cette application. Donc, on va décider, il peut avoir mon nom, il peut avoir mon adresse email, mon âge, etc., mes centres d'intérêt, et on décidera si oui ou non on veut partager ces informations. Encore plus fort, ils vont permettre également un système de login complètement... Alors attention, je dis complètement, mais c'est pas tout à fait juste. Un système de login anonyme. C'est-à-dire que vous pourrez vous loguer dans une application mobile grâce à votre login Facebook, mais sans que le développeur de l'application n'ait aucune information sur vous, pas même votre nom ou quoi que ce soit. Il aura juste une connexion avec Facebook et il aura un numéro anonyme qui lui sera envoyé. Donc, il saura quand vous revenez de quel endroit, parce que vous êtes aussi logué sur Facebook par ailleurs sur votre téléphone. Donc, le développeur d'application saura qui vous êtes. Donc, il pourra garder vos paramètres et votre historique et tout ça dans son application, mais sans accéder à aucune information de Facebook. Et à terme, si vous êtes à l'aise avec cette application tierce et que vous dites, bon, bah, finalement, elle est sympa, je veux bien partager mes informations pour avoir plus de customisation, de personnalisation de l'application et plus de fonctionnalités, eh bien, vous pourrez vous dé-anonymiser. Mais le but, là, c'est clairement de rendre la confiance aux utilisateurs de Facebook et de leur montrer qu'ils sont véritablement qu'ils ont le contrôle sur leurs informations. Et ça, c'est un changement absolument radical dans la politique de Facebook qui, comme on le sait bien sûr, a toujours joué pour que les utilisateurs partagent le plus possible de leurs informations. Alors, il ne faut pas être naïf, bien sûr. On dit que c'est un login anonyme. C'est un login anonyme pour l'application tierce. Parce que Facebook, eux, ils savent très bien, puisque vous les utilisez pour faire ce login anonyme, eux, ils savent qui vous êtes et quelles applications vous utilisez. Donc, c'est un moyen de faciliter l'utilisation d'applications tierces, mais pour Facebook, c'est aussi, encore une fois, un moyen de récupérer des informations et de rendre leur service plus pratique, plus universel, de manière à ce que vous continuiez à l'utiliser. Je voudrais parler de la régie pub de Facebook qui a aussi été annoncée, mais avant ça, peut-être vos réactions à vous deux sur cette orientation anonymisante de Facebook, cette orientation quand même un petit peu surprenante. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ?
Jeff, si tu veux commencer.
Sûr. Donc il y a deux choses. Un, c'est une façon pour Facebook de continuer à établir sa le côté en fait Facebook plateforme de développement pour les autres applicatifs en étoffant de façon assez importante l'ensemble des technologies qui sont offertes. Et comme tu le disais, Parse, c'est une boîte très très une start-up très intéressante qui a été rachetée il y a à peu près un an, je crois. C'est une boîte qui était très bonne en fait en termes de core engineering, et le fait qu'ils aient offert maintenant cette plateforme rebrandée Facebook, c'est intéressant. Le coût de l'anonymité, c'est pas mal parce que d'un côté, ça leur permet de donner une sensation à l'utilisateur que Facebook va protéger donc la privacy,
la vie privée, ouais.
La vie privée. Tout en fait, en continuant à récupérer plein d'infos sur les applications et l'usage que fait l'utilisateur au travers de cette version anonymisée, dirons-nous. Donc je pense que c'est super smart. Et puis d'un côté, c'est un peu une réponse que fait Facebook à cette dernière génération d'applications comme Secret ou Whisper, qui en gros vous permet de publier de façon anonyme et d'interagir avec votre réseau social de façon anonyme, de manière à publier des trucs que vous ne mettriez pas sur Twitter ou Facebook. Et je pense que c'est une façon un peu alambiquée pour Facebook d'offrir une option anonymisante. Donc je pense que c'est super smart.
Ouais. Jérôme ?
Moi, je pense qu'il y a deux manières de voir les choses. Soit c'est hyper cynique et hyper noir de la part de Facebook, c'est-à-dire c'est un moyen détourné d'aller encore plus loin dans la récupération des données. Alors, je suis peut-être naïf.
Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont, dire que c'est.
Oui, et c'est normal parce que, comme tu dis, il y a un côté. Dans le discours, c'était très on donne le contrôle aux utilisateurs et tout ça. Bon, en fait, comme tu l'as très bien dit, Jeff aussi, ce n'est pas anonyme pour tout le monde. Enfin, Facebook récupère les données. Moi, après, je suis peut-être trop optimiste en ce moment. J'y ai vu, en écoutant Mark Zuckerberg, une sorte de maturité de Facebook. On sent qu'il a, il a pris peut-être conscience, en tout cas la société, on va arrêter d'incarner la société en un seul homme, mais la société a pris conscience peut-être de certaines limites qu'ils avaient franchies. Ce côté a changé les règles tout le temps, on n'y comprenait rien. Et il voit bien, avec l'émergence de ces nouvelles apps type Secret, etc., qu'il y a un réel besoin grand public. Je ne parle pas des geeks et des gens qui ont toujours été préoccupés par ce que deviennent leurs données, mais le grand public commence à se dire ça va où là tout ça, et pourquoi mes amis, on le voyait sur nos timelines, on a des trucs, on comprend pas pourquoi, et que ça allait commencer à créer une réaction viscérale dans le grand public, peut-être anti-Facebook. Et donc je suis d'accord avec Jeff, je pense que c'est même si c'est un peu alambiqué, c'est un bon geste. Enfin, c'était le moment de le faire. C'est ouais, une bonne étude du marché.
C'est tout à fait vrai. Là, le sentiment, tu disais, on allait peut-être commencer à se dire, bon, ça, c'est fatigant que ça partage tout, on ne sait pas d'où ça vient. En fait, c'était déjà le cas. Hein. Il y avait beaucoup de gens qui se disaient. Mais... En fait, le problème, c'était que on savait pas. Quand une application nous disait « vous pouvez vous loguer avec Facebook », il y avait une réticence de l'utilisateur à se loguer parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer une fois qu'on serait logué avec Facebook.
Exactement.
Est-ce que l'application allait poster des trucs sur notre fil Facebook ? Est-ce que machin ? Donc là aussi, évidemment, c'est pour servir Facebook, c'est pour permettre aux gens de se loguer, de l'utiliser en confiance et donc de l'utiliser plus, évidemment. On peut évidemment noter aussi le fait que les scandales de la NSA ont réveillé les envies de protection de vie privée chez le grand public. Donc, ça a sans doute joué dans cette décision de Facebook de permettre un petit peu plus de contrôle. Et aussi, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que c'est une focalisation très très claire sur les plateformes mobiles. C'est-à-dire que Facebook a réalisé en 2 ans une transition titanesque du web classique aux applications mobiles. Et aujourd'hui, la majorité de leurs revenus viennent de la mobilité. Et ils veulent ajouter encore des fonctionnalités et en fait devenir un acteur incontournable, non seulement du web, mais de la mobilité elle-même. Et c'est pour ça qu'ils font tellement d'efforts pour s'insinuer finalement dans l'écosystème mobile, quelle que soit la plateforme, et en aidant le plus possible les développeurs.
En plus, je pense que là, l'enjeu est quand même énorme parce que c'est la clé d'entrée digitale de notre vie et qu'il n'y aura pas sur une app mobile une place infinie. C'est-à-dire que ils voient bien Google arriver aussi avec, on ne sait pas si ça sera un identifiant par Google Plus ou par Google. Twitter, mais bon, je crois que c'est toujours un petit peu compliqué de mettre le login avec Twitter, même si certains le font. Enfin, voilà, c'est le combat des trois géants. Microsoft, c'est un peu planté avec son truc de login, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Et ce que j'ai bien aimé dans un commentaire que j'avais vu, c'est que si Facebook met « loguez-vous avec Facebook » et juste en dessous le bouton « loguez-vous de manière anonyme avec Facebook », ça fait 2 emplacements de prix.
Ouais, c'est sûr. Et c'est vrai que tu ne vas pas en mettre 40.
Bah voilà.
Ouais, ouais. Et accessoirement, ils ont encore augmenté le nombre d'utilisateurs uniques par mois. Ils sont à 1,2 milliard maintenant. Ouais. Donc même Twitter, qui à côté de ça a des difficultés en bourse parce que leur accélération, leur croissance s'est ralentie, même s'ils continuent à croître, ils croissent moins vite. Et même Twitter, ils sont à, je sais plus, 245 millions d'utilisateurs uniques, je crois, ce qui est déjà monumental, mais par rapport à Facebook, c'est presque rien. Donc évidemment, le choix pour un développeur est sans doute vite fait, surtout si, encore une fois, moi par exemple, si je peux utiliser Facebook pour me connecter de manière anonyme à une app et avoir mon compte simplement grâce à ça, je pense que là où j'étais réticent jusqu'à maintenant à le faire, je serais sans doute plus prompt à me connecter de cette manière parce que finalement c'est plus simple, on n'a pas à créer d'identifiant et de mot de passe unique pour cette application X qu'on veut essayer sans doute pendant 10 minutes seulement. Donc c'est un vrai service finalement qui est rendu aux utilisateurs.
Et comment, Patrick, tu veux pouvoir browser du porn sans que ça se sache, hein?
Non, je... application ça, X ou Y. Bref.
Ah, surtout du X, hein, pas trop du Y. Hein.
Non, bon. Il faut tout. Hein.
Pour être sérieux, je pense que c'est là ce que disait Cormen. C'est vrai, c'est assez satanique de la part de Facebook de dire « Ah ben voilà, je vous offre cette notion d'anonymisation. »
Quelque chose comme ça.
Pour être anonyme, comme on dit en anglais, anonymisation.
Anonymisation.
Mais en ayant la capacité de préserver en fait toutes les infos sur l'interaction, et ce qui serait intéressant de savoir, c'est parce que bon, tout ça c'est dans le contexte du lancement de la Facebook plateforme au niveau des pubs, et donc plus Facebook récupère d'informations sur l'interaction, l'application que vous lancez, le temps que vous y passez, le nombre de notifications que ça reçoit, etc., le mieux leurs algorithmes de targeting pourront fonctionner. Et donc, c'est vraiment un contexte où ils récupèrent la donnée sans que ça se sache ou sans que ça se voit trop. Et, oui. Et c'est là où je pense que c'est un peu machiavélique, mais c'est super smart. Et du point de vue du développeur, à partir du moment où il y a le toute la puissance de la plateforme Facebook, de part, etc. en dessous, ça commence à être intéressant, quoi. Donc c'est vraiment super smart.
Et justement, tu parlais de la pub. Ils ont aussi annoncé leur Audience Network, qui est en fait une régie pub comparable à celle de Google. C'est-à-dire qu'ils avaient depuis longtemps sur leur propre plateforme Facebook une sorte de régie pub interne qui faisait qu'on pouvait acheter de la pub à afficher sur les pages que regardaient les utilisateurs. Et bien maintenant, il va être possible d'acheter de la pub. Enfin, ils vont se transformer en régie pub. Donc par exemple, Jérôme, sur son site Nowtech TV, il dit « je voudrais mettre de la pub, je vais voir Facebook, je mets un lien ». Et les gens qui vont venir visiter, enfin, je mets un embed d'une section de pub sur mon site, qui apparaît sur le côté, et les gens qui vont venir sur le site Nowtech TV, ils vont voir, en fonction de leurs informations qui sont disponibles pour Facebook, une pub qui leur est destinée de manière assez ciblée. De la même manière que fonctionne Google depuis très longtemps, bien sûr, c'était pas encore le cas pour Facebook. On se doutait que ça finirait par arriver, mais là, ça pourrait être la naissance d'un géant, parce que là, c'est le business model d'Internet sur lequel ils viennent se greffer, quoi. C'est le business model de Google qui domine le monde dans ce domaine. Bon, j'exagère un peu, mais c'est comme ça qu'ils font tout leur argent. Et Facebook, en un instant, là, est en train de se donner potentiellement la possibilité de rivaliser avec Google, ce qui est phénoménal.
Sur la base de 1,2 milliard d'utilisateurs, avec une rétention absolument folle, et ils auront bientôt 1 milliard de clients, enfin d'utilisateurs mobiles qui visitent chaque jour. Enfin, donc quand tu vois en fait l'impact potentiel sur leurs revenus, je peux te dire, moi je reste long sur Facebook.
Ouais. Ah oui, ça c'est clair. Mais justement, enfin moi qui travaille dans le marketing et la pub, du côté des méchants, c'est très intéressant aussi, parce que c'est vrai que il faut de la concurrence à Google. Google est hégémonique sur tout un tas de choses en publicité, donc c'est toujours dangereux, parce que il dicte un petit peu les prix aussi. Ça peut être intéressant que Facebook débarque là-dessus. Et je voulais juste revenir sur le truc anonyme mais lié à la pub. Je trouve que c'est peut-être un effet de bord, mais ça a quelque chose d'assez pédagogique, dans le sens où ce qu'on s'évertue souvent d'expliquer dans nos émissions tech, c'est que Facebook, c'est tout ce qu'on fait, mais notre nom, notre vraie identité, les intéresse peu, ou voire pas du tout. On pourrait être un numéro en face, enfin, que je m'appelle Jérôme Kenborg ou Patrick Béja, ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est mes comportements, c'est ce que je fais, les apps que j'utilise.
Donc, tu veux dire, si c'était simplement un numéro et qu'on associe les préférences à ce numéro-là et qu'ensuite on te présente des pubs, ça serait la même chose. Ils s'en foutent que tu t'appelles.
Ils s'en foutent complètement de mon nom. Ce qu'ils veulent, c'est des données, recouper ces données avec d'autres données pour avoir des statistiques de ce qui m'intéresse et de ce qu'on va mettre comme pub qui est susceptible de m'intéresser, et à cliquer. Et je trouve qu'en ça, c'est pédagogique, parce que j'entends toujours le même refrain en France. Oui, je suis fiché, etc. C'est pas exactement la même chose qu'un pays totalitaire. Ce que veulent les publicitaires, ce qu'ils veulent, c'est du data sur les gens, mais sans savoir qui est l'individu derrière, vraiment. Oui.
Disons que par naturellement, puisque c'est le système, on a aussi votre nom. Mais effectivement, ce qui est assez ironique dans cette histoire, ils en parlaient dans This Week in Tech hier, mais c'est que le but de tout ça, c'est de proposer des pubs qui sont intéressantes pour vous. C'est-à-dire qu'il va a priori de toute façon y avoir des pubs sur vos sites, parce que c'est comme ça que ça marche, le net. Et donc l'idée d'avoir toutes ces informations, c'est de vous proposer des pubs qui vont vous intéresser. Et c'est très très difficile à faire, mais il y a évidemment énormément de côtés négatifs à toutes ces choses-là. Et en recoupant avec les histoires de la NSA, on pourrait les développer pendant heures et des heures. Mais là, c'est pas le propos. Là, si on parle uniquement de la pub de Facebook, le but finalement ultime, c'est de vous proposer des pubs qui vont vous intéresser et que vous allez cliquer. Donc, en théorie, dans un monde de bisounours, tout ça, c'est positif pour tout le monde. Donc,
Je sais pas. Après, il y a un choix. On a les outils aussi pour être anonyme. Ça demande plus de travail, mais on peut l'être. Mais si vous préférez avoir des publicités, parce que comme tu le dis, vous allez avoir des publicités. Si vous préférez avoir des publicités qui vous concernent pas, c'est un choix. Moi, personnellement, je préfère avoir des pubs qui me concernent un peu, quoi.
Ouais. Bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à détailler ces annonces de Facebook. Je vous encourage à aller regarder, si vous souhaitez en savoir plus, l'introduction de la conférence F8. On mettra le lien sur les notes de l'émission. La chose, moi, qui m'a beaucoup plu, c'était le lien d'app à app directement, qui permettait en fait de passer d'une app à l'autre très rapidement. Oui. Et qui donne un petit peu plus d'impression de multitâche à nos appareils mobiles. Mais bon, c'est ça, on espère qu'on le verra arriver grâce à cette innovation Facebook bientôt. Passons à cette question de la neutralité du net.
Je pense on peut passer 30 secondes sur cette histoire de intra-application linking.
Si tu veux, oui, vas-y.
En fait, je pense que c'est il y a une startup qui s'appelle URX, donc comme URL sauf que c'est X à la fin. Qui s'est lancé il y a à peu près un an, c'est Catgus ex Facebook ex Link ex Google. Qui était vraiment une très très bonne équipe. Et donc ils ont créé cette notion de je peux marquer dans mon application des points d'entrée comme si c'était en fait des pages d'un site web, de manière à ce que je puisse lancer une application directement avec un contexte. Et il y a pas mal de développeurs qui ont commencé à l'utiliser, et le fait que Facebook en fait prenne cette technologie et la rendre disponible au travers de leur kit est vraiment quelque chose d'intéressant. Ça voudra dire que en gros tu peux passer des contextes beaucoup plus riches entre applications et avoir une meilleure expérience en tant qu'utilisateur. Donc c'est assez intéressant qu'il l'ait fait.
Ouais, c'est très positif. On avait déjà des trucs un petit peu équivalents, genre partager ma photo avec Instagram, ça te lance Instagram directement avec la photo dedans. Mais là, c'est développé bien au-delà de ça, et donc ça peut permettre d'obtenir une fluidité dans l'utilisation des appareils mobiles qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant et qui ralentissait en fait l'adoption de ces appareils. Pour disons, c'est une manière de faire les transitions entre applications, de les fluidifier et de se rapprocher un petit peu, non pas dans la forme, mais sur le fond, de l'utilisation qu'on peut avoir d'un ordinateur classique.
Exactement.
On n'ira jamais aussi loin, enfin, en tout cas pas maintenant, mais ça s'en rapproche un petit peu plus dans l'esprit. Donc,
non,
c'est
mais
vraiment
je pense, ouais, on a tous vécu la situation hyper rageante d'une manip hyper simple sur son ordinateur, et ça devient une tannée, notamment sur iPhone, à cause de ce manque d'interconnexion.
Tout à fait. Et donc là, ça s'appelle App Linking, App Links. Et on verra ça arriver bientôt, j'espère. Donc, la neutralité du net, il y a eu beaucoup de bruit autour de la neutralité du net et d'une proposition que devrait faire très bientôt la FCC, qui est l'organisme de régulation américain qui gère les télécommunications, notamment les agissements des FAI. On en a beaucoup entendu parler avec des gens qui étaient très 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 mécontents. Je vais rappeler très rapidement ce que c'est que la neutralité du net, parce que les auditeurs fidèles que vous êtes, je pense, savent maintenant de quoi il s'agit, mais au cas où il y a des nouveaux, je vais le faire très vite. La neutralité du net, c'est le principe qui existe aujourd'hui sur Internet, de facto, qui dit que on ne peut pas, un fournisseur d'accès ne va pas traiter les données de différentes origines de manière différente. C'est-à-dire que lui, il vous vend un accès à Internet qui est neutre, qui va vous délivrer le contenu que vous demandez par vos applications sans regarder ce qu'il y a dedans et sans donner la priorité à l'un ou à l'autre. Ça, c'est le principe de la neutralité du net. Et ça veut dire que vous demandiez une vidéo d'YouTube, une vidéo de Dailymotion ou une vidéo d'une nouvelle start-up qui vient d'arriver, eh ben, il va vous l'envoyer avec autant de rapidité. Les FAI, dans beaucoup de pays, et particulièrement aux US, voudraient casser ce principe pour pouvoir, pour tout un tas de raisons, faire payer l'accès prioritaire aux sociétés qui bouffent beaucoup de bandes passantes, qui utilisent beaucoup de leurs bandes passantes. Pour tout un tas de raisons, c'est très dangereux pour le net tel qu'on le connaît, parce que ça voudrait dire que non seulement les sociétés en question devraient aller voir chaque fournisseur d'accès et payer à chacun, à chaque fois, une somme supplémentaire, alors que eux-mêmes, de leur côté, payent déjà leur accès à Internet, mais en plus de ça, ça pourrait avoir des effets très néfastes sur le développement et les innovations sur Internet, parce qu'une société qui est très établie établis comme Google ou Netflix ou d'autres pourraient se permettre peut-être de payer ce trafic, mais une société qui va venir changer la donne et innover dans certains domaines, si elle débute, eh ben elle pourrait pas forcément payer ses accès, elle pourrait être tuée dans l'œuf par ses principes. Et à terme, on pourrait imaginer que si les FAI ont gain de cause, ils pourront proposer, à la manière qu'ils le font pour des packages de câbles, des formules pour le câble ou pour le satellite, genre le pack Internet base avec email, Facebook, et voilà, le pack Internet vidéo avec YouTube et Dailymotion, et voilà, et c'est plus cher, bien sûr, que le pack de base, etc. Donc, ça introduirait dans les fantasmes un petit peu fiévreux et inquiets des gens que nous sommes, des fans de tech, ça introduirait des pratiques assez dangereuses pour l'Internet libre et ouvert que nous adorons. Alors, ça c'est pour expliquer ce que la neutralité du net. Maintenant, ce qui s'est passé il y a une petite dizaine de jours, le président de la FCC, qui s'appelle Tom Wheeler et qui accessoirement faisait partie des organisations de lobby des câbles opérateurs et des autorités des sociétés de télécommunications, a introduit un nouveau texte suite au rejet de de leur demande d'établir la neutralité du net. Ça a été rejeté pour des questions techniques par un juge il n'y a pas si longtemps que ça, un juge aux États-Unis, une cour de justice. Et donc, il a réintroduit un nouveau texte en disant, bon, on ne peut pas avoir ce qu'on voulait, mais on va faire le mieux qu'on peut. Et dans son texte qui dit le mieux qu'on peut, il précise que les FAI peuvent faire des deals qui soient commercialement raisonnables avec les fournisseurs de contenu. C'est quelque chose qui n'était pas autorisé. Avant, ça disait simplement qu'il ne pouvait pas faire de deal tout court. Et là, il dit on peut pas faire de deal sauf s'ils sont commercialement raisonnables. Et évidemment, l'énorme problème, c'est que quand on dit commercialement raisonnable, c'est tellement vague et tellement ouvert aux interprétations que ça pourrait complètement, enfin, ça ouvre la porte au scénario catastrophe que je détaillais tout à l'heure. C'est-à-dire que si un FAI, je sais pas, je dis par exemple Free en France, dit « Ah bah oui, mais Google, il nous envoie 30% de notre trafic tout le temps », ça serait commercialement raisonnable de leur demander de payer des choses. Et ben là, ça serait selon ces règles de la FCC qui seront... Elles n'ont pas encore été présentées. Hein. Elles seront présentées le 15, mais on a eu des préversions qui ont été avérées. Donc, on sait que ça contiendra effectivement ce langage. Mais donc, ça pourrait ouvrir la porte à ce type d'opération. Le net a explosé, tout le monde a critiqué la chose et il s'est passé un truc assez bizarre, c'est-à-dire que Tom Wheeler, le fameux président de la FCC, a écrit plusieurs blogs et a fait plusieurs interventions pour dire « mais pas du tout ». La neutralité du net n'est pas du tout en danger. Ceux qui vous disent que ce texte met en danger la neutralité du net n'ont pas compris ce que je veux faire et aucun de ces scénarios ne seront possibles avec ce texte. Et il l'a répété plusieurs fois. Il a dit on n'autorisera pas ce genre de choses, ça sera pas permis, machin. Donc d'un côté c'est un petit peu rassurant sur ses intentions, mais le gros problème c'est que de l'autre côté le texte reste celui-là et quand on le lit l'interprétation peut difficilement être différente de cette interprétation alarmiste. Donc on a d'un côté le texte qui est inquiétant et de l'autre côté Tom Wheeler qui dit non, 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 on protégera la neutralité du net. Et il va falloir attendre le 15 pour avoir le cœur net et les Américains pourront aller commenter sur le site de la FCC qui est prévu pour ça. Mais là, on est face à une situation un petit peu étrange. On a une sorte de double langage. D'une part, ce qu'il a écrit et d'autre part, ce qu'il dit. Moi, je suis plutôt du côté des gens inquiets. À moitié, parce qu'on a vu qu'en France, on en parlait la dernière fois, en Europe en tout cas, la neutralité du net a été inscrite dans la loi et normalement, elle devrait passer telle qu'elle dans pas trop longtemps. Mais qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous peut-être Jeff, justement, toi qui es aux États-Unis et qui est très concerné par ce genre de texte, puisque ça peut influencer ton travail et les startups avec lesquelles tu travailles.
Oui, tout à fait. Et je pense que c'était assez bizarre que le texte dise une chose et que derrière le patron de la FCC revienne et dise non, 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 mais c'est pas ce que ça voulait dire. Donc, est-ce que va y avoir une révision du texte de manière à clarifier? Bon, in fine, aujourd'hui, tu vois des services comme Netflix qui bouffent une partie quand même assez monstrueuse de la bande passante disponible. Et je vois, nous, depuis qu'on a vraiment fait beaucoup de streaming, on commence à utiliser entre 1/2 téra et 3/4 téraoctets par mois à la maison. Bon, ce qui est quand même une augmentation quasiment 3 ou 4 fois par rapport à ne serait-ce qu'il y a 2 ans. Donc il y a clairement une augmentation de la bande passante utilisée par les services de streaming, et le fait que les Comcast, etc., demandent au Netflix qui bénéficient en fait de toute cette infrastructure de distribution de leurs produits, de payer pour une certaine qualité de service, bah, ça me choque pas. In fine, la grosse question, c'est est-ce que c'est juste une façon de taxer les plus gros utilisateurs et en gros tout le monde a un accès équivalent au net, ou est-ce que c'est vraiment un risque d'un net à 2 niveaux où seuls les gens qui paieront se verront offert une certaine bande passante, une allocation, une qualité de service. Et je pense que c'est là où en fait les alarmistes vont dire c'est la catastrophe, si je ne paye pas je ne pourrai pas accéder au net, et les gens qui ont un sens de business disent mais attends, ça coûte une véritable fortune que de provisionner cette bande passante, il faut bien que quelqu'un le paye. Et in fine, le fait de donner la possibilité à un Netflix de payer pour cette valeur qu'ils utilisent, ça me choque pas. Donc, comme d'habitude, la bonne approche est entre les deux, quoi.
Bah, le problème, en fait, c'est que tous ces FAI, y compris aux États-Unis, ils ont fait énormément de profits pendant des années et ils n'ont pas investi dans l'infrastructure qui permettrait justement de gérer ce type de demande. Enfin, à vrai dire, même le problème est encore plus compliqué que ça, parce que les infrastructures du net continuent à grossir de manière plus importante que la consommation qu'on en fait. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de bande passante, c'est pas tout à fait vrai non plus. Mais ce qui me dérange, moi, dans cette analyse, c'est que les FAI ont fait beaucoup de bénéfices et n'ont pas investi pour s'assurer qu'ils auraient suffisamment de bandes passantes à l'avenir. Et ils se retrouvent maintenant, on les surprend avec le pantalon baissé, ils disent « Ah bah oui, mais merde, moi, j'ai pas assez d'infrastructures. » Et donc, on leur dit « Mais qu'est-ce que t'as fait pendant 5 ans, là ?» Ça fait 5 ans que tu n'augmentes plus ton infrastructure et tu t'étonnes que elle ne suffit pas à approvisionner tous tes abonnés. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, tu vois. Ils ont récupéré les bénéfices pendant très longtemps sans investir dans leur avenir. Et maintenant, se plaindre qu'ils ne sont pas prêts pour cet avenir. C'est ça qui me dérange vraiment, finalement.
Moi, une chose qui m'a fait sourire, réagir quand j'ai entendu ces nouvelles-là, c'est parce que ce que vous avez dit, je suis complètement d'accord avec l'ensemble, mais un petit insight, c'est ils ont prôné, et ça c'est un peu un mot sacré aux États-Unis, dis-moi si je me trompe Jeff, mais ils ont prôné la régulation du marché, que tout ça était dans une perspective libérale et que le marché de toute façon allait avoir raison et qu'il fallait mettre plus de concurrence. Et prôner la régulation du marché aux États-Unis, c'est un peu comme en France quand on invoque liberté, égalité, fraternité. C'est l'espèce de point où on ne peut plus débattre, puisque voilà. C'est le truc sacro-saint. Alors que quand tu creuses un petit peu, moi je vois plutôt, je me trompe peut-être, mais plutôt un dernier surbrosseau d'un marché de câbles opérateurs qui essaye d'appliquer aux États-Unis, en tout cas sur le contenu Internet, un modèle qui effectivement va seulement permettre aux gros de produire du contenu. Donc vont tuer tout l'intérêt du contenu Internet, enfin toute la vivacité du contenu Internet par ce système. Mais ça, eux, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait du fric qui re-rentre dans le système, en fait.
D'une part, c'est... Pardon, Jeff, tu voulais...
Non.
Ah, d'accord. Il y a deux choses. D'une part, c'est effectivement le marché, quand tu invoques ça aux États-Unis, c'est un petit peu comme, moi je dirais, c'est un peu comme les acquis sociaux en France.
Oui,
tu dis ça, on peut plus parler de rien, quoi. C'est la fin de la conversation. C'est un petit peu la même chose aux États-Unis. Le gros problème, c'est que, en théorie, je pourrais être d'accord. Je serais quand même pour la neutralité du net, mais en théorie, effectivement, le marché peut s'auto-réguler, parce que si le FAI qui te propose tel service ne te convient pas, eh ben tu vas aller chez l'autre parce que et l'autre qui sera un petit peu moins gros, il va avoir la rage et il va avoir la niaque et il va vouloir plus d'abonnés, donc il va proposer un service plus performant. Ça pourrait être possible. Le gros problème, et c'est ce que je réponds aux gens qui avancent cet argument dans les émissions anglophones auxquelles je participe, le gros problème, c'est qu'aux États-Unis, dans le domaine des FAI, il n'y a pas de concurrence. Il y a un ou deux choix, généralement, dans la plupart des zones du pays. Et donc, c'est une situation qui est très différente de la France. Et encore qu'en France, on a vu que même à 3 ou 4, on réussissait à s'accorder pour faire à peu près la même chose. Mais aux US, justement parce qu'ils n'ont pas développé leur infrastructure, il n'y a qu'un ou deux choix. Donc, une des composantes absolument essentielles du capitalisme et du libre marché pour que ça fonctionne, et ça fonctionne souvent très bien, mais une des composantes, c'est la concurrence. Et s'il n'y a pas de concurrence, c'est pas compliqué, ça ne marche pas du tout. Donc cet argument pour moi de la libre concurrence et du libre marché dans ce cas-là, c'est un argument complètement inepte. Il n'a pas lieu d'être. Donc... Bon, en tout cas,
c'est Google vrai que la concurrence s'exerce dans les grandes métropoles où tu vas avoir les fournisseurs de DSL, les fournisseurs de câbles, où tu vas avoir éventuellement deux ou trois choix possibles. Mais bon, la liste, elle n'est pas longue, hein, même à San Francisco. Ouais. Mais c'est vrai que dans les endroits ruraux, tu vois, chez nous, Lac Tao, il y a un fournisseur de DSL, point barre. Ouais. Et donc, tu payes tes 12 médias, genre $80, parce que de toute façon, t'as pas d'autre choix.
C'est sûr. Et à vrai dire, il y a un autre sujet que ça, enfin, une autre marque que ça m'évoque aussi. On se dit souvent, on nous répond souvent, oui, c'est vrai, mais ça coûte incroyablement cher d'amener les lignes Internet partout, et vraiment, c'est pas possible, c'est pas envisageable, enfin, c'est bien trop cher. Et on pourrait penser que, effectivement, ce type d'infrastructure est tellement lourde à développer et tellement cher à installer que on pourrait se dire prendre les FAI en pitié et se dire ah ouais, quand même, c'est vrai que c'est pas facile. Le problème, c'est que ce type de développement d'infrastructure, on les a déjà fait plusieurs fois au cours du siècle dernier. On a fait les routes, on a fait l'électricité, on a fait l'eau courante et tout. Bon, c'est pas exactement les mêmes conditions. Il y a eu des développements, des plans de développement spécifiques pour certains d'entre eux. Et à chaque fois, c'est un petit peu différent. Mais il n'empêche, on a développé, enfin, tout le monde a l'eau courante dans le pays entier, même dans un pays comme les États-Unis qui est immense. Donc, c'est possible à faire. C'est juste une question de volonté à la fois politique et entrepreneuriale. Et c'est possible. Donc cet argument également du fait de dire c'est trop compliqué, la densité de population n'est pas assez grande aux États-Unis pour le faire de manière sérieuse, c'est pour moi un argument qui est difficilement recevable aussi. Bon, en tout cas, Google et Netflix sont en train de considérer l'idée de faire un gros push de lobbying justement contre cette proposition de la FCC. Donc, on peut espérer qu'il y aura un vrai débat sur la place publique et qu'on entendra les voix des grands d'Internet qui ne sont pas pour ce type de régulation. Et entre parenthèses, une dernière chose, je rappelle aux gens qui nous écoutent ailleurs qu'aux États-Unis et qui se disent, bon, vous savez, les États-Unis, nous, on s'en fout un petit peu, c'est pas... Eh ben non, parce que l'immense majorité des innovations dans le domaine du net arrivent des États-Unis, et si le marché américain de l'innovation est affecté, eh ben ça nous affectera, nous aussi. Donc c'est quelque chose d'assez important pour nous également. Mais bon, il n'empêche, on peut quand même pousser un petit cocorico, puisque nous, en Europe, maintenant, on a, a priori, la neutralité du net inscrite dans la loi. Donc, nous, au moins, on a fait notre boulot. Maintenant, c'est à eux de le faire. Dernière grosse partie sur des informations à retenir ces deux dernières semaines, Microsoft et Nokia ne font plus qu'un. Enfin... Pas tout à fait, c'est Microsoft et la partie téléphone mobile de Nokia. Le rachat a été acté et on pensait qu'il y aurait
Micro-Kia, c'était pas très joli en fait.
Vous connaissez l'histoire des deux enclumes que vous attachez aux chevilles et qui se trouvent.
bon, Jeff qui est comme toujours de mauvaise foi quand on parle de Microsoft.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Microsoft. Bon, les choses à retenir dans cette histoire, c'est que Microsoft est devenu du jour au lendemain le deuxième fabricant de téléphones mobiles au monde. Ils vont pas appeler leur division mobile Microsoft Mobile, c'était un nom qu'on avait entendu, mais c'était juste administratif. Mais maintenant, ça y est, ils vont sans doute se lancer avec peut-être les noms Lumia et ce genre de choses. Mais en attendant, ils ne chôment pas parce que ils ont obtenu des royalties de Motorola pour leur téléphone Android. Ça veut dire qu'ils touchent maintenant de l'argent sur les, quasiment toutes les machines Android vendues. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont annoncé donc il y a 2 ou 3 semaines que le Windows Mobile allait être gratuit, Windows Phone. Donc ça veut dire qu'ils vont toucher de l'argent sur les téléphones Android et pas sur les téléphones Microsoft.
Bah ça, c'est quand déjà, même, ils gagnent plus d'argent avec ce que leur payent les royalties qu'avec Microsoft Mobile, quoi. Enfin,
tout
avec
à fait. Ouais. Ils ont aussi, on a aussi appris qu'ils envisageraient une version cloud de Windows. Donc, ça serait une version qui aurait des fonctionnalités sur le desktop, mais pour accéder à toutes les fonctionnalités, il faudrait payer un abonnement et être dans le cloud également. On a entendu qu'ils allaient accélérer la cadence de développement et de sortie de Windows qui pourrait avoir des mises à jour plus rapides qu'une fois par an. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Skype a rendu son ses appels de groupe en vidéo gratuits sur Windows et Mac et sur Xbox One. Et enfin, pour cette actu Microsoft, les ventes de Nokia qui s'effondrent au premier trimestre. Donc finalement, peut-être que Nokia a été malin de se départir de la division mobile. Et c'est Microsoft qui les récupère. Bon, il y avait un petit peu de tout, mais le gros morceau, évidemment, c'est Microsoft Mobile Nokia. On en a déjà beaucoup parlé, mais je voulais quand même vous donner la parole pour savoir si vous aviez quelque chose à dire sur le sujet.
Bah là, juste pour une breaking news, c'est rigolo parce que le Nokia qui va rester Nokia, là sur Bloomberg, ils viennent d'annoncer qu'ils investissent dans avec Tesla sur les voitures électriques.
Oui.
Ouais. Donc peut-être que Nokia va mieux s'en sortir que l'ancien Nokia qui a été revendu à Microsoft Mobile. Rapidement, dans tous les sujets que tu as évoqués, je vais choisir ceux où j'ai quelque chose à dire. Sur le fait qu'ils aillent plus vite, moi, c'est vraiment l'analyse que j'avais fait de l'échec de Windows Mobile qui, en soi, et je continue à le dire, est un bon OS et avait de bonnes chances, mais ils ont été beaucoup trop lents en réactivité, beaucoup trop lents à faire venir les développeurs, beaucoup trop lents à... Bon, ce qui a en plus tiré une balle dans le pied, c'est leur mise à jour qui a fait que tous les vieux téléphones n'étaient plus compatibles. Mais globalement, ils sont lents. Voilà, Microsoft a un problème de lenteur. On est sur un marché beaucoup plus rapide qu'avant. Et même les mises à jour de Windows, c'est devenu lent, quoi. Il faut plus de nouveautés. Donc, on espère pour eux qu'ils vont prendre un nouveau rythme. Une news que t'avais chantée, c'est le fait que ils veulent lancer du contenu autour de la Xbox avec Netflix, avec leur licence de jeux vidéo. Pourquoi
oui,
pas
du contenu des vidéos, des séries télé qu'ils
produisent
eux-mêmes.
Voilà, des séries Halo, etc. Pourquoi pas, si on est obligé d'avoir une Xbox pour les voir, bon, je dis pas en exclusivité, si après c'est complètement captif, ça fait encore un truc qu'il va falloir pirater. Non, je plaisante. Mais oui, ils sont légitimes. C'est vrai que ça fait 15 ans qu'ils font du jeu vidéo, ils ont des licences fortes, pourquoi pas nous produire une bonne petite série Halo. Sur Skype, bah, ils étaient un peu obligés de le faire, puisque avec les Hangouts de Google, on était en train de tous shifter sur Google pour faire nos appels vidéo en groupe. Et puis les ventes de téléphones Nokia, pour moi, Nokia avait réussi un truc super, c'était de faire des smartphones presque sous la barre des 200€, mais depuis ils se sont fait rattraper. Donc les gens achètent des Android à moins de 200€.
Ouais, bon, moi je suis quand même un petit peu plus optimiste. J'ai l'impression toujours qu'il y a une sorte de 109. Et ce qui m'a le plus marqué, c'était cette histoire de se dire Windows va être mise à jour plus qu'une fois par an. Si on a deux mises à jour importantes de Windows, là, on arrive en fait dans une philosophie qui est un peu plus proche du développement rapide qu'on a sur le web ou dans la mobilité. Et pour moi, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et d'une manière générale, vous le savez, j'ai toujours aimé Microsoft, j'ai toujours aimé Windows, même Windows Vista et Windows 8, je suis complètement heureux d'utiliser ces OS. Donc bon, moi,
je te paye même pas pour dire ça,
même
c'est
pas.
Ça qui est exceptionnel. Et
tu te rends compte.
Je précise un truc, parce que pour pas que tu dises que je suis un fanboy, je trouve aussi qu'Apple est trop lent hein, dans leurs évolutions d'OS.
D'accord.
Voilà.
Mais bon, donc moi, pour moi, Microsoft, il se passe des choses chez Microsoft. J'ai l'impression, j'ai ce sentiment que il se passe des choses, que les choses sont en train d'évoluer et que, comme toujours, il faut pas enterrer Microsoft. Vous savez, c'est comme ces géants de différents domaines où on se dit ah ouais là ça va pas depuis 2-3 ans, 4 ans, ça va finir par leur coûter. Évidemment, ça leur coûte, mais on les enterre généralement beaucoup trop vite et parfois on est surpris de ce qui se passe plus tard.
Bah, c'est ce qu'on disait pour BlackBerry, c'est ce qu'on disait pour...
Moi, je pense pas... Ouais, enfin...
Bon, non, Nokia, mais... Et puis c'est ce qu'on disait pour DEC hein, à l'époque. Non, ouais. je pense que tu as raison parce que tu as un nouveau CEO, Satya Nadella, qui veut essayer de tout changer, qui a mis Office sur les tablettes Apple, ce qui était quand même pas évident.
C'est Ballmer qui avait donné le go hein, pour Office sur les tablettes, on avait appris ça. Donc c'est pas okay. Que Nadella, mais bon, c'est vrai.
Mais en tout cas, on lui donne le bénéfice du doute quant à sa capacité en fait à bouger, à réveiller le géant. Et c'est vrai qu'on a besoin de toute façon d'un Microsoft qui va être compétitif face à un Google, face aux différentes boîtes du monde du cloud. Mais est-ce qu'ils vont réussir à avoir du succès sur tous les fronts? Que ce soit Office, que ce soit le gaming, que ce soit les téléphones, c'est une grosse tarte à manger, comme on dit. Hein.
Ouais. Bon, bah, on verra là encore comment ça se passe dans les mois à venir. Je crois que Jérôme ne nous entend plus. T'es toujours là, toi, Jeff?
Moi, je suis là.
Oui,
tu m'entends?
Jérôme a des problèmes d'internet. Mais il est revenu là.
Bah voilà, il a prononcé le mot piratage.
Et voilà. Et j'ai été censuré directement. Paf.
Bon, on va passer donc à notre partie news et rumeurs, mais avant ça, je vais faire mon deuxième round de remerciements, plein de remerciements éternels aux personnes qui choisissent de nous soutenir sur Patreon. Il y a en l'occurrence Clément Studer, Damien Gouillette, Super Chacal... C'était écrit de manière un petit peu particulière. Super Chacal, Stéphane Laborie, Pierre Journel, Mourgue, Eric, Moreau, Benjamin, il y a des gens qui inversent le nom et le prénom, Didier, Luc, Cuminato et Marcono, Christophe. Donc, merci à vous tous de participer au Rendez-vous Tech, enfin au Patreon du Rendez-vous Tech. Comme on le prédisait, Nostradamus de nos états, la dernière fois, le Patreon a atteint l'étape du $1000 par épisode. On a débouché le champagne et on a également fait une petite
C'est
vidéo...
C'est du champagne, le mousseau que t'as servi l'autre jour.
Non, j'ai fait une petite vidéo d'état des lieux, en fait, pour remercier tout le monde et pour répondre encore un petit peu aux questions et vous dire où on en est. Je mettrai le lien vers la vidéo d'état des lieux que j'ai fait il y a une petite semaine de ça. Ça vous explique un petit peu comment ça se passe. J'étais un peu malade, j'étais pas à la maison, mais bon, je l'ai fait quand même, c'était sympathique.
Va faire un deuxième Patreon pour payer les frais de santé de Patrick, en fait.
Ça va, c'est pas la peine. Mais bon, évidemment, vous en doutez, une vraie fierté, une vraie joie incroyable de voir que vous tenez tellement à cette émission, vous pensez tellement qu'elle vous apporte quelque chose, que vous êtes prêt à voter avec votre portefeuille. Donc je vous remercie infiniment. Il y a 330 patriotes. J'aime beaucoup ce nom, c'est des patriotes, tu vois, les gens.
Oui,
qui
ou alors t'as 330 patrons, c'est une autre façon de voir les choses.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc 330 patrons patriotes qui participent à l'émission. Si vous pensez que l'émission vous apporte quelque chose, si vous pensez que vous voulez, elle est suffisamment marrante, intéressante pour valoir $1, $2, $3 ce que c'est, eh ben allez voir sur patreon.com/rdvtech et puis peut-être si ça vous intéresse, vous pouvez donner un petit peu de sous. pour cette émission. En tout cas, je vous en remercie chaleureusement. Et on a en plus de ça, à la fin de l'émission, un message de Simon et un message de Jean qui nous parlent de leurs produits, e-teachers et Papa à quoi tu joues, qui sont des émissions plutôt sympas aussi. Donc, vous pourrez écouter ça en fin d'émission. Ce sont des patriotes qui ont envoyé ça. Donc, merci à vous tous. Merci, merci. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. 1 000 $ par épisode, c'est une étape incroyable, mais surtout, encore plus que ça, c'est les 330 patriotes que je remercie sincèrement du fond de mon cœur, de mon petit cœur de geek. Donc, on passe à la partie news et rumeurs avec un sujet dont... Jeff, tu nous dis, hein, quand tu dois y aller, je sais que ton emploi du temps est chargé.
Encore quelques minutes.
Super. Donc justement, tu pourras réagir à ce sujet que voulait évoquer Jérôme, qui est que le fait que les actions de l'industrie tech soient en chute libre, eh ben, en fait, c'est une bonne chose. C'est une bonne nouvelle.
Alors, pour rectifier un petit peu les choses, elles sont pas en chute libre, mais il y a eu effectivement, on va dire, un trou d'air ces dernières semaines et surtout semaine dernière. Pour vous donner un petit peu la mesure des choses, Twitter a perdu 46% par rapport à sa valeur initiale, mais comme c'est une action relativement récente, ça veut pas dire grand-chose. Mais des choses comme LinkedIn ont perdu 36%. Voilà, des actions qui commençaient quand même à avoir de grandes valeurs. Pourquoi on dit que c'est une bonne chose? Alors là, je donne vraiment mon petit insight de boursicoteur du dimanche. Hein. Ceux qui s'y connaissent vraiment vont me rire au nez. Mais il y avait une vraie inquiétude. De toute façon, il y a le spectre de l'an 2000 qui plane toujours sur la bourse et sur les actions tech. On a toujours peur que les choses soient surévaluées. Et là où c'est plutôt une bonne chose, c'est que si on mise sur le fait qu'on est à des débuts d'embryon de signes de reprise, ce qui se passe sur les actions tech est un revirement normal. C'est-à-dire que aujourd'hui, les actionnaires sont des gens qui, en période de crise, ont misé sur des potentiels, et donc les entreprises tech étaient bonnes pour ça. C'est pour ça que 2013, il y a eu des vraies montées en bourse très intéressantes. Aujourd'hui, avec la reprise, les actionnaires, ils ont envie de dividendes. Ils ont été très inquiétés par des mouvements qui se sont faits la semaine dernière ou la semaine d'avant, par exemple d'Amazon, qui continue à réinvestir son argent à tour de bras. Je pense qu'il a raison, mais ça plaît pas aux actionnaires. Des LinkedIn qui annoncent des chiffres qui sont pas exactement ceux que le marché espérait. Donc aujourd'hui, voilà, il y a un transfert qui se fait vers des entreprises plus traditionnelles qui assurent des bons gros retours aux actionnaires. Et c'est une bonne chose parce que du coup, ça éloigne un petit peu le spectre de spéculation ou de sur-spéculation sur le marché du tech. Après,
ça réduit la bulle, en fait.
Réduit la bulle. Moi, j'y vois, je me trompe peut-être, et encore, ne prenez pas mes conseils. Hein, je dis, mais arrivez de me tromper. mais moi, j'y ai
ça,
vu...
Ça, j'y crois pas, Jérôme. Qui se trompe.
Alors, je le dis, j'ai vu une bonne opportunité pour investir. Ce que j'ai fait, en jouant des petits chevaux de bois, hein, parce que j'ai pas de quoi vraiment investir. Mais il y avait des actions qui me faisaient envie depuis longtemps, que je ne pouvais pas m'acheter parce que je les estimais un peu trop hautes. Et là, j'en ai profité pour faire un petit peu mon marché. Peut-être que dans 2 semaines, je vais pleurer parce que j'aurais perdu mes 10 euros que j'ai mis en bourse. Mais voilà, je pense qu'il y a peut-être des opportunités en misant sur les business tech qui font déjà leurs preuves, qui savent rentrer du cash. Je pense que la période n'est plus à la start-up super prometteuse. On l'a vu un peu avec King, même si King, là, je le vois ce soir, monte beaucoup. King, c'est ceux qui ont fait Candy Crush. On n'est plus dans la start-up à potentiel qui fait des chiffres énormes à la bourse. On va vers des trucs un petit peu plus
solides, quoi.
Un petit peu plus
solides.
Jeff,
j'imagine que tu as suivi la chose. Tu as un avis? Tu partages l'analyse ou?
Oui, j'ai du LinkedIn, j'ai du Twitter, j'ai du Facebook, j'ai du Workday dans mon portefeuille perso, donc je peux te dire que ça a été du genre saigné, puisque ça fait longtemps que je suis dans LinkedIn, donc le moins 30%, je l'ai pris dans la tronche. Cela dit, donc dans le contexte, c'est vrai que ça fait plusieurs mois ou plusieurs quarters qu'on se dit qu'on a besoin. Trimestre, ouais. Pff, je m'en fous maintenant, c'est fini.
De toute façon, t'es américain maintenant.
Ça vient même plus. Ça va mieux.
Si vous donnez 5 euros à Patreon, on vous envoie un dictionnaire français-anglais pour pouvoir décoder Jeff.
Non, mais Jeff, awesome. Moi, je trouve que pour un américain, il parle vachement bien français.
Ah, mais carrément.
Ouais, moi, c'est... Indeed. Avec l'accent Astérix. Donc. Dans le contexte, ça fait plusieurs trimestres qu'on se dit qu'on a besoin d'une correction parce que les marchés ont quand même, surtout la tech et la tech internet a quand même énormément monté et aujourd'hui est coté à un multiple de revenus et de profits qui est assez fou. Et c'est vrai que quand on regarde en fait Facebook, LinkedIn et Twitter, ça va du simple au triple en termes de multiples de profits. Donc ça, c'est une chose. La deuxième, c'est faut pas l'oublier, on est dans un contexte géopolitique qui est quand même pas super cool avec l'Ukraine. Ouais. Et l'Ukraine, ça a été vraiment le truc qui a un peu fait exploser, je dirais. Enfin, en gros, la mèche était déjà là et c'est l'Ukraine qui l'a allumée, en quelque sorte. Mmh. Et si ça avait pas été l'Ukraine, ça aurait été autre chose. D'accord. Ça fait longtemps qu'on est aussi... on se dit, ah bah tiens, la croissance de la Chine qui a commencé à baisser. Donc il y a un ensemble de facteurs macroéconomiques et géopolitiques qui font que, en gros, les traders ont serré les fesses. Et puis, au moment où il y en a un qui a commencé à vendre, avec les systèmes de programme trading, tout commence à vendre. Et c'est pour ça qu'on a des boîtes qui sont des boîtes de grande qualité. Je veux dire, LinkedIn, c'est une boîte géniale. Et est-ce que c'est normal que la boîte se prenne moins 30% dans la tronche en l'espace de 2 mois? Non, mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'ils pourront rebondir. Et si j'avais
moi,
plus de
moi, ça m'a permis de prendre le train. Hein, de
voilà.
LinkedIn, hein.
Si j'avais plus de cash dispo, je peux te dire que j'en aurais racheté. Là, je suis un peu. J'ai déjà pas mal investi parce que j'ai pris une position Twitter au mauvais moment, puisque je me suis pris les 25% dans la tronche dans le mauvais sens. Mais c'est pas grave, ça remontera. Donc de toute façon, on peut jamais timer le marché, donc rentrer au moment optimal. Et de toute façon, ce sont des boîtes qui, sur le long terme, généreront beaucoup de profits. Moi, j'ai eu la chance de rentrer sur Facebook à 20. Et franchement, bon, je l'ai quasiment timé correctement, quoi.
Bon, bah voilà pour les quelques petits conseils. Rappelez-vous que nous ne sommes pas des experts. Enfin, Jeff sans doute un petit peu plus que nous, mais
Non. Moi, je travaille dans le monde du privé. Moi, je travaille pas.
D'accord. Donc, prenez les conseils pour ce qu'ils sont. Tu évoquais l'Ukraine justement, et on a un petit sujet sur le président de Vkontakte. Je sais pas comment ça se prononce en russe. C'est Vkontakte, qui est le Facebook russe, qui a été plus ou moins obligé de démissionner et qui a en fait été renvoyé par les alliés de Poutine qui ont maintenant acquis ce Vkontakte. Je rigole, mais c'est pas drôle du tout, hein, en fait. C'est une autre de ces dérives un petit peu inquiétantes du clan Poutine en Russie qui fait main basse sur tous les moyens de communication. C'était déjà le cas avec d'autres gros sites internet. Et Vkontakte, qui était vraiment l'équivalent de Facebook pour la Russie, là-bas ils utilisent quasiment pas Facebook, quasiment pas Google+, ils utilisent Vkontakte absolument tous, et ben là il est entre les mains d'un camarade de Poutine, donc c'est assez inquiétant. On parlait de Heartbleed il y a 2 semaines et on disait justement, on s'inquiétait de voir que, pour ceux qui s'en souviennent, cette composante essentielle qu'est le SSL, cette composante essentielle du web, était maintenue par 3 pelés et 2 tondus, 14 personnes qui mettaient de leur propre temps libre pour maintenir ce protocole. Et on disait la semaine dernière... Finalement, ça semblait être une anomalie et a priori, ça allait être corrigé parce que maintenant qu'on a mis le doigt dessus, les géants du web allaient financer ce genre de choses parce que c'est pas possible d'avoir le web qui tient avec un de ces éléments aussi mal managé. Et ben, on a appris qu'effectivement, les géants du web ont donné aux organismes qui gèrent du libre. Je crois que c'était bon, je veux pas dire de bêtises, donc je ne vais rien dire. Je vais peut-être retrouver la société. Oui, c'est OpenSSL Software Foundation qui va bénéficier de leur manne financière. Il y a plusieurs autres projets qui vont être financés aussi. En gros, ça a effectivement servi à mettre la lumière sur ce problème et ça a renouvelé la participation des grandes sociétés à ces projets open source. C'est une très bonne chose, évidemment. Si vous avez des choses à dire, vous m'interrompez, hein. Je continue avec Google+, et là, par contre, ça sent un petit peu le roussi. J'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, le chef architecte de Google+, Vik Gundotra, qui était très 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 connu chez Google, a quitté la société pour passer du temps avec sa famille, hein, on dit toujours les choses comme ça, mais le truc, c'est que on a eu des rumeurs assez persistantes sur le fait que Google+, soit peut-être pas mis au placard, mais en tout cas, lève le pied de l'accélérateur sur Google+, qu'il le transforme en une sorte de plateforme pour servir les autres parties de Google et qu'il ne soit plus du tout aussi concentré sur Google+ qu'il ne l'avait été ces deux dernières années. C'est plutôt une grosse nouvelle parce qu'on savait que Google voulait absolument être un membre du jeu des réseaux sociaux. Et là, ça signifierait qu'ils abandonnent, ils jettent un petit peu l'éponge, même si officiellement tout le monde nous dit non, 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 rien ne change, Google Plus est toujours une de nos priorités, tout est toujours là. Ça serait pas étonnant que d'ici quelques mois, on entende parler de certaines transformations, et on a déjà entendu parler de rumeurs qui disent que les membres de l'équipe de Google Plus sont réaffectés à d'autres parties de Google pour intégrer Google Plus comme plateforme sur les autres. Avec les autres éléments de la société.
Ils n'ont pas réussi à en faire une destination primaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont soit sur Facebook, soit sur Twitter, soit sur les deux, mais Google+ reste encore cette plateforme que tout le monde a... Enfin, en gros, tu as un compte, mais tu ne penses jamais à poster quoi que ce soit dessus. Et objectivement, s'il n'y avait pas les Hangouts, qui est franchement une technologie top, je sais pas quand est-ce que j'utiliserais mon compte Google+, quoi. Bah, et c'est ça le problème, c'est qu'il y a déjà tellement d'alternatives, excuse-moi Jérôme, tellement d'alternatives qui sont meilleures, où il y a plus de... Bah, tes copains sont là, tout le monde va faire du like, du machin, du truc, du commentaire, tu vas pas aller là où il y a personne, quoi.
Moi, ça serait regrettable parce que c'est vrai que Google Plus a amené des choses. Enfin, Patrick, tu le sais encore mieux que nous. On a un taux d'engagement sur Google Plus avec la communauté qui est bien supérieur. Moi, en tout cas, je vois qu'avec Facebook ou ce genre de choses, c'est-à-dire sur des micro-communautés, ce réseau, quelque part, il a été mal brandé, pour pas dire un autre mot. Mais il a voulu suivre Facebook, mais il y a pas d'autre place. Enfin.
Il n'y a pas de place pour un deuxième Facebook, quoi.
Non, il faut trouver une autre utilité. Et il y a de la demande, notamment les micro-communautés. Et je trouve que les dernières versions de Google+ s'éloignent finalement de leur idée première avec les cercles, qui étaient finalement assez intéressantes. Et moi qui travaille du côté des marques, les marques étaient très intéressées par cette idée de cercle. Mais Google leur a mal vendu, n'a pas mis de produits à disposition pour les marques. Parce que pourquoi les marques sont très intéressées par la notion de cercle? Je ne vais pas rentrer dans l'explication, mais les marques font du CRM, c'est la connaissance de leurs clients, en fait. Et de pouvoir avoir un réseau social où on pouvait regrouper les clients dans des cercles bien particuliers, lui c'est un super fan de mes produits comme ça, et tout ça, ça les intéressait beaucoup. Et c'est surtout quelque chose que Facebook ne sait pas faire. Et que Google Plus n'a pas assez joué ses forces, ça a été trop dans l'imitation.
Voilà. Moi, je crois que d'une part, c'est la fondation Linux qui va récupérer l'argent pour la redistribuer aux initiatives open source, dont OpenSSL. Donc voilà, je savais que c'était quelqu'un d'important. Effectivement, c'est la fondation Linux. Pour revenir à Google Plus, moi, je pense que les cercles, c'était une idée intéressante, mais qui au final n'était pas aussi pratique qu'on l'avait pensé. Mais bon, il n'empêche que effectivement, comme tu le dis, Jérôme, moi j'ai un engagement sur Google Plus que je ne trouve nulle part ailleurs. C'est-à-dire que quand je mets une mise à jour sur Google Plus, les gens participent, discutent, c'est super c'est intéressant. Dingue. Et pour ça, moi j'espère que Google Plus disparaîtra pas et que ça sera au moins il existera toujours comme ça quelque part. Mais on verra. Mais pour moi, effectivement, Google Plus est une vraie, un vrai troisième réseau social intéressant. Je l'aime beaucoup plus que Facebook, par exemple. Mais bon.
Moi, Google m'a déjà brisé le cœur en abandonnant Wave. S'ils le font avec Google Plus, je ne réponds plus là. Je vais prendre un compte chez Yahoo.
Ouais, t'es là. Là, c'est ouf. Ah non, mais là, c'est fais gaffe, hein, parce que ça peut être dangereux, ça.
Fais attention à ce que tous les espions français vont raconter. Hein.
Oui, c'est vrai.
Le piratage, à partir chez Yahoo.
Ouais, non, mais tu sais, j'ai plus aucune réputation maintenant, j'ai plus peur de rien.
un autre truc qui t'aura sans doute brisé le cœur, Jérôme, c'est qu'au moment où Amazon a racheté Comixology, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, et c'était un très bon achat pour Amazon, mais malheureusement, ils ont supprimé la possibilité de... pour ceux qui ne connaissent pas Comixology, c'est l'application de d'achat et de lecture de comics sur iOS. Et ils font même de la BD franco-belge, ils font plein de choses maintenant. Mais elle s'est développée principalement sur iPad. Elle existe aussi sur Android. Et quand Amazon l'a rachetée, ils ont développé et mis en place une nouvelle version de l'application qui malheureusement ne permet pas d'acheter, de faire des achats in-app. Il faut passer par le site web de l'application pour acheter des choses. Jeff, tu vas devoir nous quitter.
Je vais devoir vous quitter, mais bon, c'est Amazon versus Apple, hein. Ils sont suffisamment en compétition pour que Amazon ne veuille pas mettre sa puissance marketing derrière quelque chose que Apple Apple pourrait bénéficier à 30%. Donc, c'est pas étonnant outre mesure. Et donc, je me retire pour aller à mon prochain meeting.
D'accord.
Merci encore pour m'avoir eu sur ce super épisode du Rendez-vous Tech. Et je vous dis à dans un mois.
Merci beaucoup, Jeff. Merci.
Salut.
Ce qui me gêne là-dedans, et pour extrapoler un petit peu, j'ai l'impression qu'on va revivre les DRM sans les DRM. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que là, dans le grand combat des Amazon, Apple, tout à l'heure on parlait de la Xbox qui va avoir du contenu, qui va être propriétaire, on va encore être condamné à prendre nos contenus chez l'un, chez l'autre.
Là, c'était déjà le cas, hein, qu'on soit.
Mais je sais pas.
Ce qui est clair, c'est que ça retire de la facilité d'utilisation à l'utilisateur,
voilà,
c'est sûr. Et bon, la raison, Jeff en a parlé, mais la raison pour laquelle Amazon ne veut pas qu'on puisse acheter les BD directement dans l'app, c'est que si on le fait, eh ben Apple récupère 30%.
Oui, je sais.
D'un autre côté, moi je comprends qu'ils ne veuillent pas donner 30% à Apple. D'un autre côté, sans Apple, il n'y aurait pas du tout tout cet écosystème. Il s'occupe de l'App Store, de la mise à disposition des applications, de la curation de l'App Store, des fichiers à envoyer, c'est eux qui stockent tout. Enfin,
ouais, mais ça, c'est quand même. Oui, mais tu sais comme moi que le marché, ça, ils en ont rien à foutre de qui a mis et que si Apple
est
écrasé là-dessus, ils seront écrasés.
Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde dit ah ouais, Apple prend 30%, c'est énorme, c'est incroyable, mais enfin, pourquoi est-ce que je devrais donner 30% à Apple? Bah, c'est comme si tu vas acheter un truc chez Monoprix et tu dis ah, mais pourquoi je devrais donner tel pourcentage à Monoprix?
Un débat parce que 30% aujourd'hui, c'est pas 30% il y a 5 ans. Apple a tendance à avoir des traits. C'est leur réussite, hein. Moi, je leur reproche pas, mais Apple est très gourmand. Faire des grosses marges. Comme l'a très bien résumé Apple, nous, on n'est pas là pour être les premiers, on est là pour être les meilleurs. Et ça, ils parlent aussi de leur chiffre d'affaires. Ils s'en foutent d'être les premiers à vendre des smartphones. Ce qu'ils veulent, c'est faire de la grosse marge sur les smartphones. Ouais, ouais. Voilà, donc sur les apps, c'est pareil. Ça les tuera peut-être. On va voir comment ça va évoluer dans les années à venir. Mais soit Apple change son fusil d'épaule et s'adapte au marché. Les signes ne sont pas très encourageants, moi, je trouve.
Disons que là, en l'occurrence, Amazon peut effectivement se permettre de faire ce genre de choses parce qu'ils ont des épaules énormes. Et on peut se dire que les gens qui utilisent Comixology seront peut-être suffisamment adeptes de l'application pour aller acheter sur le site web les BD qu'ils veulent lire. Mais en même temps, moi, je crains que même pour Comixology eux-mêmes, ça réduise énormément leur volume parce que la facilité d'utilisation et l'achat impulsif quand tu peux le faire dans l'app est tellement importante que s'il faut systématiquement aller sur le site de Comixology, penser à le faire, puis retélécharger dans l'app, etc., je pense que ça va réduire sensiblement le volume d'achat sur leur store. Ensuite, reste à savoir si ça va ou non compenser les 30% en question.
Ouais. Donc, après, je donne une petite info sur Amazon parce que je sors d'une étude sur Amazon dans le fond. Deux petites choses qui sont peut-être intéressants pour comprendre Amazon. Amazon a quand même dans sa philosophie, non pas de prendre les marchés, mais d'écraser les marchés. Et Amazon n'a jamais, et ça c'est certainement un truc très important pour comprendre Amazon, Amazon ne fait pas d'argent avec les produits qu'ils nous vendent. Les marges qu'ils font sur ce qu'ils nous vendent sont quasi nulles. Amazon fait uniquement, enfin quasi uniquement de l'argent avec le fait qu'ils payent les gens qui produisent les produits qu'on achète une quarantaine de jours après que nous on ait payé. Et ces 40 jours, ils le mettent à profit, ils prennent notre argent et puis ils l'investissent. Et c'est comme ça qu'Amazon fait de l'argent. Et c'est comme ça qu'Amazon, et c'est toute la philosophie d'Amazon, pénètre les marchés et les détruit. Le but quand même est de détruire toute concurrence. Donc je reviens sur Comixology, je suis passé du macro au micro. L'idée est peut-être simplement de tuer dans l'œuf ce marché-là. Hein.
Bah, de tuer le marché de la BD, ouais. Pourquoi ?
Bah, après, pour relancer le marché derrière avec leur propre tarif.
Bah, oui, peut-être. Enfin, en l'occurrence, c'est quand même leur société maintenant, Comixology. Ils l'ont racheté, donc oui, je ne suis pas certain que ça s'applique ici. Mais effectivement, cette vision est assez intéressante, c'est sûr.
Bah, pour bien comprendre Amazon, et j'ai rien contre Amazon, hein, mais ils ont une philosophie qui est de conquête pour avoir une hégémonie sur tous les marchés possibles.
Bon, ah. Bah, si ça vous évoque une stratégie à laquelle on n'aurait pas pensé, chers auditeurs, venez nous le dire sur le blog de l'émission, par exemple. Le rapport Thévenoud, on pouvait quand même pas ne pas en parler. Le rapport Thévenoud qui préconise qu'il y a des propositions pour régler le problème des VTC, hein, dont on a parlé régulièrement dans l'émission.
Tu devrais avoir une petite musique de clown quand on fait ce genre de...
Mais en l'occurrence, effectivement, ce rapport qui devait apporter des solutions a plutôt apporté des quolibets, on dira, puisque essentiellement, je résume, mais ce qu'il suggère pour régler le problème des VTC et des taxis, c'est de retirer les innovations qu'ils ont amenées, les VTC comme Uber, hein, de leur retirer les innovations qu'ils ont créées pour les donner exclusivement aux taxis. C'est l'aspect le plus emblématique, je pense, de ce rapport. C'est-à-dire que les VTC comme Uber n'auraient plus le droit d'utiliser la géolocalisation en direct pour vous montrer où est la voiture que vous avez commandée. Et par contre, les taxis récupéreraient cette fonctionnalité qu'ils pourraient utiliser. On marche sur la tête, quoi.
Ouais. Pour être objectif, les mesures qui sont annoncées pour les taxis eux-mêmes sont plutôt bonnes.
Après, forcément, ils copient les VTC.
Il y avait des choses quand même comme donner la même couleur à tous les taxis, ce qui est fait dans beaucoup de grandes métropoles aujourd'hui. Il n'a toujours pas été fait. De réduire, on sait en France qu'il y a toujours ce problème de plaque où il y a une spéculation avec le numerus clausus. De casser un petit peu ça, mais dans l'autre côté de la balance, de dire bon, bah les taxis, on vous donne ça et puis on va tuer vos concurrents comme ça, vous allez pouvoir survivre. Alors, oui, là, pour le coup, on est très français. Je précise juste encore une fois, hein, je suis pas un atroce libéral, même si j'ai parlé de bourse tout à l'heure. J'ai de la compassion pour les taxis qui ont acheté leur licence hyper chère. Et là, le prix de la licence, je sais pas si tu as vu, mais est en train de s'effondrer. Parce que voilà, c'est la conséquence. Mais au même titre que j'ai de l'empathie pour les mineurs quand on s'est plus mis à miner du charbon. Enfin voilà, fallait évoluer quand même.
Oui,
là,
oui
c'est
et non.
Trop tard.
Disons qu'effectivement, pour moi, c'est un petit peu la même. Et peut-être que je me trompe, mais d'après ce que je sais, c'est vraiment le cas. C'est un petit peu le même problème que pour les FAI dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que les FAI ont profité d'une situation à un moment donné, n'ont pas prévu leur avenir et maintenant se retrouvent confrontés avec la réalité et sont effectivement dans une situation impossible. Mais en même temps, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme je le disais.
Surtout,
si tu n'as pas... Parce que Bon, bref, ne repartons pas sur la question
non,
des licences et tout ça,
mais
c'est une question
je voulais quand même, parce que là où c'est presque dommage, c'est que l'État, encore une fois, intervient là où il fallait peut-être pas intervenir. Et là, je vais faire un petit peu de publicité. Je trouve, par exemple, que les taxis bleus, leur nouvelle appli, le fait que maintenant, on n'ait plus besoin de sa carte bleue dans le taxi bleu et tout ça, bon, même si la dernière fois, ils m'ont fait payer deux fois, mais bon, on va dire que c'est des erreurs de démarrage. Mais globalement, voilà, pour la première fois depuis plusieurs mois où je ne prenais plus que des VTC, j'ai repris un taxi parce que je retrouvait un vrai confort d'utilisation. Donc finalement, on aurait laissé le marché, il y aurait peut-être eu de la place pour tout le monde. Là, non, il faut qu'on...
Bon, là, ouais. C'est une proposition qui n'est pas encore adoptée, hein, on va voir. Non, mais c'est sûr qu'il y a des choses intéressantes. Par exemple, le fait de limiter, d'encadrer la course d'approche.
Oui.
Donc on aurait 6,86€ pour la course d'approche et basta. Donc ça c'est pas mal, le fait d'avoir des cartes bleues dans tous les taxis. Enfin, ah, oui. Ça ferait des... Mais oui, effectivement, il y a des choses bien. Mais j'ai du mal à l'applaudir parce que c'est juste le fait de dire ah bah ces trucs qu'on aurait dû faire il y a 5 ou 10 ans, maintenant on le fait, donc oui,
et,
bien sûr,
et on
le fait parce qu'on est forcé.
Et on punit les autres.
Ouais. Mm. Bon. Bref, donc notre petit mot rageur sur le rapport Thévenoud. On va finir avec un petit peu de légèreté. D'une part, Danny Boyle pourrait être le réalisateur du film Steve Jobs. Ça pourrait être sympa parce qu'on sait que c'est un bon réalisateur. Mais... avec Leonardo DiCaprio comme acteur principal. Là, j'ai un petit peu plus de mal quand même.
Bah alors, moi, pour te faire rire, quand j'ai vu, parce qu'en ce moment, Twitter, j'ai beaucoup de mal à le lire, donc parfois, je jette des petits coups d'œil, et j'ai lu Danny Boone faire Steve Jobs, et j'étais là, oh putain. Donc finalement, quand j'ai vu après c'est Steve Jobs dans le Nord, je sais pas du tout faire l'accent.
Non,
du Nord,
toi non plus. Moi, j'ai failli essayer, puis je me suis dit, je vais me ridiculiser.
Oui,
ridiculisé à ma place.
Et donc, finalement, j'étais rassuré de lire Leonardo DiCaprio comme acteur. C'est un grand acteur, Leonardo DiCaprio. Ça peut être intéressant.
Ouais. Mais à vrai dire, non, c'est un bon acteur. Le problème que je vois, moi, c'est qu'il est trop... il a trop de personnalité. Leonardo... Enfin, il est trop connu, si tu veux, à la limite.
Ouais.
Il faudrait quelqu'un d'un petit peu moins rayonnant pour... parce que sinon, je crains qu'il bouffe le personnage qu'il va jouer.
Pour être franc, avec tout le respect que je dois à Steve Jobs, l'âge de la vie de Steve Jobs, elle me sort par les yeux, quoi. Non mais sérieux, on l'a fait par je sais pas, bientôt ça va être Steve Jobs à la plage. Steve Jobs en vacances, Steve Jobs adopte un poney. Enfin, non mais laissons-le tranquille. Voilà, la vie de Steve Jobs, moi perso, je sais pas vous hein, mais moi j'en ai marre.
Ouais. Bon, ok. Dernière news de cet épisode, on a retrouvé les centaines ou les milliers de cartouches de jeux E.T. de la console Atari qui, selon la légende urbaine, avait été enterrée parce que le jeu était tellement mauvais, il s'était tellement pas vendu que Atari, on parle d'il y a 30 ans, hein, ouais. Atari avait enterré toutes les cartouches qui restaient dans une décharge, et ça, c'était une sorte de légende urbaine, on savait pas si c'était vraiment le cas. Et ben en fait c'était bien le cas, on les a retrouvés et c'était un moment historique plutôt marrant que de voir ces gens qui étaient partis à la recherche de ces cartouches les retrouver, les sortir de terre et nous les présenter et confirmer que cette légende était bien réelle. Atari avait effectivement enterré tous ces jeux.
Mais on cherche
pour,
encore
pour les vieux comme moi, ça voudra dire quelque chose.
Ah
des
oui, mais on cherche encore les conteneurs contenant les Windows Vista, hein, à vieux amateurs.
Pas mal, pas mal. Très bien, Jérôme. Eh bien, écoute, c'est sur cette petite plaisanterie que nous allons mettre un terme à l'émission. Non sans, bien sûr, demander à Jérôme de nous dire où on peut le retrouver sur Internet.
Eh bien, vous pouvez me retrouver sur Twitter, c'est @JeromeKenborg, ou sinon @naotech. Pas de point dans l'arrobas, Naotech TV. Donc Naotech TV, c'est un site où on fait des tests avec Marion, des tests écrits maintenant, c'est la nouveauté, mais il y a aussi des tests vidéo. Là, en ce moment, je suis en train de tourner un test sur la Chromecast plus l'application Plex qui va révolutionner votre home cinéma. Et puis normalement, juste avant de partir en vacances, je suis en train de tester un nouveau format vidéo, donc vous irez me dire ce que vous en pensez. Et je vais vous raconter un petit peu peu ce que je mets dans mon sac photo pour partir en vacances. Donc,
ah, avis intéressant, ça.
Aux amateurs photos.
Ça sera disponible quand, ça?
Bah, j'espère avoir le temps de le tourner avant le 16, qui est donc mon départ pour le Vietnam en vacances.
D'accord. Bon, bah, espérons alors.
Voilà.
Eh bien, pour ma part, vous le savez, je suis NotPatrick sur Twitter, qui reste malgré tout mon réseau social préféré. Je suis aussi sur Google+ et sur Facebook. Vous pourrez me retrouver là-bas. Vous pourrez aussi et surtout retrouver les notes de l'émission sur frenchspin.com, qui est le site où j'héberge toutes les émissions que je produis. Il y a bien sûr le rendez-vous tech et vous pouvez mettre des commentaires sur les notes de cet épisode, enfin sur la page de cet épisode, si vous trouvez qu'on a dit des bêtises ou des choses justes, ce qui arrive parfois aussi. Vous pouvez aussi retrouver Upload et Positron, deux émissions sympathiques que je produis aussi. Et enfin, vous pouvez aussi aller laisser un commentaire sur iTunes. Vous savez que ça nous aide à avoir un petit peu plus de visibilité et ça nous aide à recruter de nouveaux auditeurs qui nous découvrent. C'est toujours important, évidemment.
Est-ce qu'il y aura un login anonyme sur ton blog est-ce qu'on peut faire des Patreon? Est-ce qu'on peut faire des Patreon anonymes?
Écoute, sur Patreon, je crois que tu fais à peu près ce que tu veux. Tu mets le nom que tu veux. Il y a des gens qui mettent des noms un petit peu fantaisistes. Bon, évidemment, il faut mettre le compte PayPal ou le numéro de carte bleue pour participer financièrement, hein, mais ensuite, t'es pas obligé de mettre ton nom, hein, je crois pas.
Oh bah je te le dévoile, Princesse Friponne, c'est moi.
Bon, bah si vous voulez faire comme Princesse Friponne et participer à au Patreon du Rendez-vous Tech, vous pouvez évidemment faire ça aussi si vous pensez que l'émission a un petit peu de valeur pour vous. Quoi qu'il en soit, je vous remercie tous très chaleureusement de nous écouter parce que c'est le plus important. Je vous remercie de faire partie de la communauté du Rendez-vous Tech et on se retrouve dans 2 semaines. Oui, entre parenthèses, dans 2 semaines, je serai genre la veille de mon déménagement. Donc, je sais pas exactement comment je vais faire les choses.
Donc, le son va être en carton, quoi. Déjà.
C'est possible, ouais. Mais on va voir comment ça va se passer. Je suis sûr que je pourrais faire une émission. Je sais pas exactement ce que ça sera. Mais évidemment, je ne vous abandonnerai pas. Je serai toujours là pour vous enchanter les oreilles. C'est hasardeux, ça. Ciao à tous. À dans 2 semaines.
Ciao tout le monde. Ciao.
E-Teachers, le podcast des profs numériques qui parlent enseignement, TIS, innovation et expérimentation. Des outils, des ressources et des invités sur www.e-teachers.fr ou retrouvez-nous sur les principaux réseaux sociaux et iTunes.
Et une longue vie au Rendez-vous Tech.
Bonjour à vous, chers auditeurs du Rendez-vous Tech, et merci Patrick de me laisser un peu de temps dans ton émission. Certains le savent, avoir un enfant, ça prend du temps. Et tout joueur de jeux vidéo que vous aviez pu être n'a pas résisté à l'arrivée du divin enfant, et la console et les jeux n'y ont pas résisté non plus, et sont souvent passés aux oubliettes. Vous n'avez plus le temps, et surtout plus l'envie de passer du temps sur un jeu sans savoir si ça vaut le coup, et surtout s'il vous est possible d'y jouer avec votre emploi du temps de ministre. Eh bien, papa, à quoi tu joues? C'est chaque mois une sélection de news, un ou deux jeux sur lesquels passer un peu de temps libre avec ou sans votre enfant, et aussi de quoi remplir les plages de temps libre hors jeux vidéo. En une phrase, papa, à quoi tu joues? C'est le podcast pour les parents et les gens très occupés, vous ouvrant une petite porte sur la culture vidéoludique. Rendez-vous donc sur http://www.papaacquoitujoues.fr, sur Google+ et Facebook, papa, à quoi tu joues, et sur Twitter, papa, à quoi tu joues, sans S. Le podcast est également disponible sur iTunes. À très bientôt, j'espère.